Chapitre 4. Port Lupin. La courtine voguait à pleine vitesse le long de la côte d'Albâtre. Paloma, penchée sur le pont du chalutier, observait la falaise défiler. « Une autre aiguille ? » s'écria-t-elle surprise. « L'aiguille de Belval, » précisa Bergton. Belval est le nom d'un grand ami d'Arsène Lupin, Patrice Belval. Compagnon fidèle de Lupin dans deux aventures, l'île aux 30 cercueils et le triangle d'or. Mais Maurice Leblanc parle aussi de cette aiguille dans la comtesse de Cagliostro. Moins connue que celle d'Étretat, elle marque l'entrée de la valeuse du curé. Depuis que l'escalier est fermé, l'aiguille est devenue invisible de la terre.
Curieux destin.
Ouais. Curieux littoral aussi que vous allez découvrir. Plus de 100 kilomètres de littoral et pourtant à peine 30 endroits pour descendre à la mer. L'immense majorité du littoral est inaccessible aux hommes, au moins par la terre. C'est le dernier littoral mystérieux de France. Le dernier où, si l'on souhaitait encore pratiquer la contrebande, on pourrait déjouer sans risque la vigilance des douaniers. C'est Beautrelet lui-même qui précise dans l'aiguille creuse « Il y a plusieurs de ces escaliers le long de la côte. On m'a signalé, en face de Bénouville, l'escalier du curé. Et je ne parle pas des 3 ou 4 tunnels destinés aux pêcheurs. »
Ces falaises aux Normandes sont un véritable gruyère.
Presque. Cavité naturelle ou creusée par l'homme, les falaises étaient percées d'échelles, d'escaliers, de cordes, de toutes sortes d'astuces plus ou moins connues pour accéder à la mer. La plupart ont disparu. Mais sans doute pas toutes.
Et Leblanc les connaissait parfaitement ?
Oui. Même si le périple de Lupin, d'Étretat à Port-Lupin, ne nous en dit rien. Il l'évacue en une ligne. Fécamp passa d'abord devant eux, puis toutes les plages normandes, Saint-Pierre, les Petites Dalles, Velette, Saint-Valéry, Veules, Quiberville. Ce littoral était encore à l'époque un des plus touristiques de France.
Et dire que nous, ça va nous prendre 3 heures.
Regardez, Paloma, on passe devant la valeuse de Vaucotte, un véritable petit bijou.
Qui a fait Lupin ?
Oh, Arsène Lupin, rien. Mais Maurice Leblanc passa plusieurs étés à Vaucotte, chez ses beaux-parents, juste après son mariage, à partir de 1889. Il y écrivit ses premiers contes, bien avant d'inventer Lupin. Et ils y recevaient le grand monde.
Un éclair de malice passa dans le regard de Paloma. Elle regarda le professeur droit dans les yeux.
Tenez, pour passer le temps, vous ne deviez pas me parler des relations entre Lupin et l'ésotérisme, les sociétés secrètes, les Templiers, et m'exposer votre hypothèse ?
Et vous, ne deviez pas tenter de résoudre le cryptogramme de l'aiguille ?
D'accord, fit Paloma, joueuse. À chaque fois que je progresse sur le code, vous me parlez des relations entre Lupin et les Templiers.
Bergton soupira.
Si vous voulez. Regardez, on passe devant Yport. Charmant petit port où Ganimard avait caché sa flotte avant l'assaut de l'aiguille. Une flotte composée exactement de 12 barques de pêche.
12. Toujours 12.
Ouais. Et le cap que l'on vient de doubler se nomme d'ailleurs la Roche aux Anglais.
Les Anglais, toujours les Anglais. Les relations entre l'Angleterre et la Normandie. On y revient à chaque fois. J'ai comme vous de plus en plus la conviction qu'une partie de la solution de tous ces secrets tient dans ce lien entre la France et l'Angleterre.
Le vent du large giflait le visage, les épaules et le ventre de Paloma. Elle alla emprunter au pêcheur dans la cabine un coupe-vent.
« Beaucoup moins sexy maintenant, »
pensa-t-elle.
« C'est avec mes méninges qu'il va falloir que j'impressionne mon professeur adoré. »
Elle s'assit sur le pont, tentant de s'abriter du vent. Elle écrivit sur un morceau de papier les points et les voyelles du cryptogramme de l'aiguille. Elle nota à côté l'explication donnée par Maurice Leblanc. En aval d'Étretat, la chambre des demoiselles, sous le fort de Fréfossé, l'aiguille creuse, puis se mit à réfléchir. Roland Bergton se tenait à l'arrière du chalutier, observant la falaise, semblant réfléchir. Il passait devant Fécamp lorsque Paloma vint le rejoindre. Il ne l'avait pas entendu arriver. Il se retourna brusquement. Paloma fut presque persuadée qu'elle l'avait réveillé, mais elle ne voulut pas le vexer.
« J'ai une première salve de mots, professeur. Pour la troisième ligne, sous le fort de Fréfossé, O-U-E-O-E-E-O-E. Beaucoup de mots peuvent correspondre aux 8 dernières lettres. Par exemple, réponse, félone, menotte, semonce. Si on ne prend que les 7 dernières lettres, on peut faire étoffe. Avec les 9 dernières lettres, on a bretonne. Qu'en dites-vous ?
Formidable. Continuez à chercher.
Et mon histoire ?
Regardez, Fécamp. Le blanc n'évoque cette ville que dans la Cagliostro. C'est à Fécamp, à la sortie du train, que Détigue et Beaumagnan la capturent.
Paloma insista.
Et mes Templiers ?
Vous êtes têtu. Et si prévisible. Tout le monde s'intéresse aux Templiers et aux loges secrètes. Encore plus depuis ce sacré Da Vinci Code. Et pourtant, nous avons devant nous en Normandie un secret combien plus original et tout aussi passionnant.
Je m'en fiche d'être comme les autres. J'attends. Vous aviez promis.
D'accord, d'accord. Les liens concernent surtout le roman La Comtesse de Cagliostro. En fait, si on y pense, l'histoire de la Comtesse de Cagliostro est celle du trésor des congrégations. Un immense trésor de 10 000 pierres précieuses accumulées par l'Église au cours des siècles. Vous vous souvenez de Beaumagnan, l'ennemi juré de la comtesse de Cagliostro et donc de Lupin. L'homme d'Église, celui qui va découvrir le premier le secret des moines normands. Leblanc précise qu'il est un membre important de la Compagnie de Jésus. Beaumagnan est incontestablement un personnage qui possède un double réseau religieux et politique. Les complices cauchois, dont le baron d'Étigues, ne sont que des pions.
Et alors ?
La Compagnie de Jésus ou la Congrégation de Jésus, si vous préférez. Ou encore sous Louis XIV, lors de la Constitution du Trésor, la Compagnie du Saint-Sacrement sont autant de congrégations dont on a souvent dénoncé les réseaux occultes, les agents dormants, leur infiltration dans tous les milieux influents, pour assurer leur fortune et la conservation des secrets ancestraux. Leblanc évoque d'ailleurs explicitement la légende du milliard des congrégations. Tout cet effort de millions et de millions de moines, cette gigantesque offrande de tout le peuple chrétien et des grandes époques de fanatisme. Voilà, fin du premier épisode, ce sera tout pour l'instant.
Paloma, bonne joueuse, retourna à l'avant du bateau. Une 20aine de minutes plus tard, elle venait retrouver Bergton.
« Regardez, » fit le professeur en désignant le littoral. « Saint-Pierre-en-Port. Et plus loin, les grandes et les petites dalles, tout là-bas. Une des plus belles portions du littoral. Des villas somptueuses, tout juste parfois un peu trop au bord de la falaise. Des valeuses verdoyantes, des plages avec du sable à marée basse, du vent pour faire toutes sortes d'activités à voile. Les petites dalles, surtout. Avec Vaucotte, Veules et Varangeville, c'est le 4e bijou du littoral. Et, cerise lupinienne sur le gâteau, l'une des descentes à la mer s'appelle le Vauchel, le même nom que l'un des personnages de La Bariva, la mer Vauchel.
Paloma observait le paysage avec impatience.
C'est promis, j'y reviendrai avec mon amoureux. Bien, j'ai quelques nouvelles propositions à vous faire, toujours pour la dernière ligne O-U-E-O-E-E-O-E. Que pensez-vous de « pour le sort des déportés » ?
« Pas mal, » répondit le professeur. « Mais il y a un « s » de trop à la fin. »«
Bien joué. On ne peut pas vous la faire. Mais vous préférez peut-être ceci. « Sous le porche de l'orme. » Ça colle parfaitement ?»«
Pas mal, pas mal. Gardons ça en mémoire. Un porche, un orme, pourquoi pas. C'est une piste. Il faut réfléchir. »
Paloma avait pris une pause de statue signifiant « Maintenant la suite de mon histoire ».
D'accord, adorable petite curieuse. À mon tour de vous en dire un peu plus. Plusieurs auteurs, avides d'ésotérisme, se sont logiquement penchés sur l'œuvre de Leblanc. Relecture de l'histoire, cartes, trésors, tout ceci bien entendu, appelé à une double interprétation. Sur Internet circulent pas mal d'informations, souvent assez farfelues sur ce thème.
On a même publié quelques livres à ce sujet.
Dites-moi plus.
Ouais, tout à l'heure. Mais d'abord, regardez cette portion du littoral. C'est l'une des plus curieuses.
Pourquoi ?
On y trouve toute une série de mouillages qui portent encore le nom de port, mais dont les accès par la terre ont le plus souvent disparu. Le fond de Villon, le port du Houmes, par exemple. Le seul accès terrestre de ce coin reste la valeuse de Saint-Martin-aux-Buneaux, le Val. C'est une valeuse sans aucune habitation, ce qui est assez rare sur la côte. Observez, on s'en approche. On ne peut accéder à la plage que par une échelle de fer, l'échelle Saint-Martin, une échelle presque verticale.
Une curiosité à déconseiller fortement aux enfants, fit Paloma.
De toutes les façons, l'échelle aussi est en sursis. Elle ne tient déjà presque plus à la falaise.
Donc, les villages seront à nouveau coupés de la mer.
Ouais. C'est pourtant ici un des arrière-pays les plus riches du littoral. On trouve plusieurs manoirs dans chaque village, avec une utilisation massive de la matière la plus noble, la plus solide, celle qui traverse les siècles.
Le grès ? Proposa Paloma.
Oui, le grès. Château, maison, église, calvaire de grès. On raconte également que ce coin du littoral, notamment l'échelle Saint-Martin, était un repère de contrebandiers.
Des contrebandiers ? C'est bien vieux tout ça.
Sans doute c'est bien vieux, vous avez raison. Désormais, nous allons voguer devant une longue portion du littoral qui n'est jamais évoquée dans les aventures de Lupin, de Velette-sur-Mer jusqu'à Veules-les-Roses.
Le professeur ne semblait pas disposé à faire davantage de révélations pour l'instant. Paloma retourna à l'avant du pont. Le vent avait faibli. Elle retira la capuche de son coupe-vent et se cambra en rejetant sa tête en arrière afin de libérer ses longs cheveux noirs. Elle resta ainsi quelques longues secondes, debout, les yeux clos, savourant le soleil sur son visage offert. Et, elle n'en doutait pas, le regard posé sur elle de Roland Bergton. Comment pourrait-il détourner le regard de sa cambrure, sa provocante cambrure espagnole ? Une demi-heure plus tard, Paloma venait à nouveau rejoindre Bergton. Cette fois-ci, il semblait parfaitement éveillé.
« Vous avez vu ?» demanda-t-il à Paloma, excité. « Depuis une demi-heure ? La muraille de craie. Uniquement la muraille de craie. Aucun accès à la mer, rien. Enfin. Voici enfin Veules-les-Roses, le joyau de la côte d'Albâtre.
Le fameux plus petit fleuve de France ?
Et surtout le plus beau village du littoral. Si on veut développer le tourisme sur cette côte, c'est sur Veules qu'il faut tout miser. » Maurice Leblanc l'évoque rapidement dans L'Aiguille creuse. Lors du drame d'Embrumésy, Isidore Beautrelet, accusé de complicité, fournit comme alibi une promenade solitaire à Veules.
C'est tout ?
C'est tout dans Lupin. Mais Maurice Leblanc était un grand amoureux de Veules-les-Roses. Il l'a écrit dans ses nouvelles, mais pas dans ses Lupins.
Il en parle tout de même, dit Paloma, méthodique. J'entoure Veules-les-Roses sur ma carte. Bon. Pour ma part, je n'ai pas avancé beaucoup sur le cryptogramme, mais tout de même un peu. Avec les lettres de la première ligne, en aval d'Étretat, E-A-A-E-E-A, on peut former le mot « cachette ». Intéressant, non ?
Le professeur fronça les sourcils.
Intéressant. Valère Catogan avait, lui, proposé « cassette ». Mais il reste alors devant « cachette » trois lettres, dont « E-A », ce qui ne veut rien dire. À moins de rajouter arbitrairement des lettres, comme l'a fait Catogan. Votre cachette est une impasse, ma belle.
Paloma ne se découragea pas.
Pour la deuxième ligne, pour le premier groupe de lettres, A-A, on peut former battant, passant, cachant.
Pas mal, c'est meilleur.
Et pour le deuxième mot de la deuxième ligne, demoiselle, E-O-I-E-E, on peut former le mot étoile. Étoile près, par exemple.
Intéressant aussi, cela.
Pour la troisième ligne, O-U-E-O-E-E-O-E, on peut placer le mot secret ou même le mot trésor. Qu'en dites-vous ?
Très intéressant également, vous progressez. Et le reste de la ligne ?
Je bloque pour le reste. Mais vous me semblez bien exigeant, professeur. À mon tour maintenant. Revenons à nos sociétés secrètes.
Le professeur sourit.
D'accord. D'abord, je vous expose la thèse courante des gens ignorants, puis ensuite, vous aurez droit à la véritable interprétation.
J'en salive déjà.
Elle s'adossa confortablement à une bouée et écouta le professeur.
Comme je vous le disais, c'est le roman « La comtesse de Cagliostro » qui est au cœur de la polémique. Dans l'explication historique qu'il donne du secret des moines normands, Maurice Leblanc met en scène un personnage réel, presque contemporain, le cardinal de Bonnechose.
Qui est-ce ?
L'archevêque de Rouen, de 1858 à 1883. Ce cardinal a véritablement existé. On peut encore visiter sa sépulture dans la cathédrale de Rouen. Monseigneur de Bonnechose a connu Maurice Leblanc. C'est même lui qui a donné au jeune Maurice Leblanc sa confirmation. Le cardinal de Bonnechose était également très attaché au pays de Caux, Yvetot, la Mailleraie.
Les yeux de Paloma pétillaient de malice.
Quel rôle joue Bonnechose dans le roman de Leblanc ?
Un rôle important. Alors qu'il est en tournée de confirmation dans le pays de Caux, il est surpris par un orage et doit se réfugier dans le château de Gœur. Rassurez-vous, nous irons dans quelques heures visiter ce château. Le propriétaire du château, le chevalier des Aubes, un vieillard de 90 ans, lui révèle qu'il est le dernier dépositaire du trésor fabuleux des moines normands depuis l'âge de 12 ans.
12 ans ? Toujours le nombre 12 ?
Oui, c'est ce que dit Leblanc. Le chevalier parle de richesses incalculables mises de côté au fond de la cachette la plus originale qui soit. En un coin du pays de Caux, dans un espace libre où tout le monde pouvait se promener. Et en guise de preuve devant l'archevêque incrédule, le chevalier lui remet un coffret rempli de 100 pierres précieuses prises des 10 000 du trésor. Mais la guerre de 1870 éclate. La France est envahie par la Prusse. Le cardinal souhaite rapidement expédier des documents confidentiels en Angleterre.
En Angleterre ? Décidément ?
Oui. Il confie les documents et le fameux coffret à un domestique. Mais celui-ci tombe dans une embuscade dans la forêt du Rouvray, à 10 kilomètres de Rouen. On retrouve le cadavre, mais pas le coffret. Comble de malchance, avant de mourir, le chevalier des Aubes avoue au cardinal de Bonnechose que la formule permettant de trouver le trésor est gravée au fond du coffret. La suite du roman repose principalement sur la recherche par Beaumagnan, Lupin et la Cagliostro du fameux coffret.
Paloma plissait les yeux. Elle semblait réfléchir très vite.
Passionnant, je l'avoue, mais quel rapport avec les Templiers ?
Sans répondre, Bergton se retourna soudain.
Regardez. On dépasse Sotteville-sur-Mer, un petit village touristique perché 60 mètres au-dessus de la falaise. Connu à cause de son fameux escalier de près de 250 marches. On y remontait jadis les galets à la main. Désormais, l'escalier est dangereux. Parfois même, l'accès est interdit.
Paloma ne se donna même pas la peine de regarder vers le littoral.
D'accord pour l'escalier. Et les Templiers ?
J'y viens. Mais je vous préviens, il s'agit d'une hypothèse assez peu crédible. Avant d'être archevêque de Rouen, Bonnechose fut évêque de Carcassonne de 1848 à 1855. Il joua un rôle politique primordial en lien direct avec Louis-Philippe, Napoléon III et même le pape de l'époque.
Carcassonne, l'Aude, nous voici enfin au cœur des légendes des Templiers.
Eh oui, comme tout le monde, vous tombez dans le panneau. Une fois nommé à Rouen, Monseigneur de Bonnechose est épaulé par un bras droit, Arsène Billard.
Arsène ? Tiens donc.
Oui, Arsène, vous avez décidé de m'interrompre ainsi tout le temps ?
Paloma ne releva pas, trop intéressée par la suite. Bergton continua.
Donc, Arsène Billard, curé cauchois né à Saint-Valery-en-Caux.
Paloma se retint de s'exclamer « Saint-Valery-en-Caux ! » Bergton continua.
Il devient le bras droit de Bonnechose. Le cardinal de Bonnechose, en 1881, propose alors directement au pape Léon XIII de nommer le curé Billard évêque de Carcassonne, ce que le pape accepte.
Je commence à comprendre.
Vous avez sans doute entendu parler de Rennes-le-Château et du fameux curé Béranger-Saunière.
C'est le fameux curé de l'Aude qui est inexplicablement devenu richissime, qui a construit autour de son église des monuments énigmatiques, notamment en hommage à Marie-Madeleine, qui était protégée mystérieusement par l'église jusqu'à Rome ?
Oui, c'est lui, Saunière, le plus célèbre découvreur de trésors au monde. Dan Brown a même donné son nom au héros de Da Vinci Code. Tout le monde s'accorde pour penser que Saunière a découvert le trésor des Templiers. Rennes, le château, est le centre de gravité de toutes les cartes ésotériques. La Mecque des chercheurs d'or du monde entier.
Et Arsène Billard?
Monseigneur Billard sera toute sa vie le protecteur du curé Saunière. C'est lui qui inaugurera l'église de Rennes-le-Château, métamorphosée par Saunière.
Paloma réfléchit.
Maurice Leblanc parle de Monseigneur de Bonnechose qui lui-même protège Monseigneur Billard, qui lui-même protège le curé Saunière. C'est un peu tordu comme raisonnement, non?
Je ne vous le fais pas dire. Je vous avais prévenu. Sauf que dans la cathédrale de Carcassonne, outre la tombe de notre Arsène Billard, on trouve un reliquaire vieux de plus de 1000 ans.
Et quel est ce saint vénéré dans l'Aude?
Un confesseur de la région, le chanoine de Carcassonne au IXe siècle, dont on ne sait pas grand-chose, à part son nom, Saint Lupin.
Les yeux de Paloma lancèrent un éclair.
Saint Lupin, incroyable! J'ignorais qu'il existait.
Ne vous affolez pas, ma jolie. Ne vous laissez pas prendre par des raisonnements simplistes. Je vais vous donner ma version des faits. Tenez, regardez. La plaine de Sausmar et la plage de Saint-Aubin.
Et alors?
Sachez juste que c'est le seul endroit de la côte d'Albâtre où la falaise est presque morte. Surtout à Sausmar. De vastes plages de sable, presque plus de galets, pas de falaise qui risque de s'effondrer sur vous, et pourtant un endroit encore assez peu connu.
Paloma tournait ostensiblement le dos au littoral.
Et votre version de Saint-Lupin?
Fin de l'épisode. Retournez d'abord à vos codes.